gagne 0,3% par rapport à la monnaie européenne. Espérons que ça va continuer. Je vous rappelle le CAC 40, plus 0,16% en attendant les statistiques américaines à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Jean Perrier.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Et on termine avec les courses à Deauville dans la première, un non partant le 13, premier le 7, 11, 70, 2, 20, deuxième le 8, 2, 60, troisième le 9, 1, 20, dans la deuxième qui servait de support au quintet plus, un non partant le 4, il fallait jouer le 16, le 3, le 6, le 12 et le 15. Vous écoutez France Inter, 14h03, c'est à vous Patrice Gélinet pour 2 ans d'histoire.
Merci Hélène et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, Fritz Lang.
Si quelqu'un pouvait connaître tout de notre cœur, de nos désirs, de ce que nous aimons et de ce que nous haïssons, il pourrait dire pourquoi et comment nous avons fait ce que nous avons fait. Fritz Lang.
D'histoire. Avec Griffith, Chaplin, Dreyer et von Stroheim, Fritz Lang fait partie de ceux qui ont fait du cinéma un art, c'est-à-dire dans son esprit, le moyen pour un peintre, un écrivain ou un metteur en scène d'observer et de dénoncer toutes les violences et les injustices du monde. Celles que Fritz Lang a vécues pendant la Première Guerre mondiale, le régime de Weimar, la montée du nazisme et la chasse aux sorcières aux États-Unis, et qui ont inspiré ses films les plus célèbres, Le Docteur Mabuse, Metropolis, M le Maudit, Fury et La Cinquième Victime. Quelques-uns des 50 films de ce cinéaste extraordinaire, qui avait commencé à être peintre avant de découvrir à Paris, au début du XXe siècle, sa véritable vocation. Fritz Lang au micro de Roger Régent, le 9 octobre 1965.
J'habitais au Montmartre et j'ai essayé de faire la peinture à Montparnasse. C'était 12-13 que j'ai vu le premier film ici et que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et je crois, je le dis souvent, je crois que le film c'est l'art de notre siècle et plus que ça c'est l'art du peuple. C'est Paris qui m'a formé et qui a conduit mes premiers pas de metteur en scène.
Michel Simon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et critique de cinéma et auteur, entre autres, d'une biographie de Fritz Lang qui vient de sortir chez Gallimard Découverte. Fritz Lang que l'on vient d'entendre dire que c'est à Paris qu'il a découvert sa vocation de metteur en scène, en 1912-1913, et à l'époque, il voulait être peintre.
Oui, c'est-à-dire que en fait, le père de Fritz Lang lui-même était entrepreneur en architecture, donc il a eu une formation artistique, il a fait des études, 2 semestres d'architecture. Il a commencé ensuite une vie de voyage qui était dans la formation allemande, les Wanderjahre, les années de voyage et d'apprentissage. Et il dit être allé très loin, même jusqu'en Chine, ça on peut en douter, parce que Fritz Lang a beaucoup inventé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a été à Paris, il a suivi les cours de Maurice Denis, il était à l'Académie Ranson. Il gagnait sa vie en vendant des affiches ou des dessins, plus que je crois que des peintures, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que Paris a été effectivement une année de formation. Une année, je crois, il a vécu là. Il est parti de Paris rapidement quand la guerre s'est déclarée, parce que l'Allemand, évidemment, n'était pas aimé dans les rues de Paris.
Oui, puis parce qu'il était citoyen autrichien.
Il était citoyen autrichien. Il devait rentrer
en 1890 à Vienne.
Voilà, il devait rentrer donc pour faire la guerre. Et c'est vrai qu'il a découvert, comme il le dit, le cinéma à Paris à travers, on le sait, les films de feuillade en particulier, c'est-à-dire les vampires et les films à épisodes qui allaient naturellement l'inspirer directement.
Oui, l'inspirer d'abord comme scénariste. Hein. Il écrit d'abord des scénarios. En 1919, il a 30 ans, hein, c'est quand même plutôt tardif, son entrée dans le cinéma, et avec des films populaires. Hein, ce qu'il est, c'est pas du tout un auteur d'arrêt d'essai, comme on dirait aujourd'hui. Certes, on le voit dans toutes les cinémathèques, mais d'abord, ce qui l'intéresse, et on l'a entendu à l'instant, c'est de faire du cinéma un art populaire, et on le voit dans ses premiers films. Un des tout premiers, Les Araignées, en 1919, met en scène, ça se passe, je crois, chez les Incas, il y a un Américain qui va chercher un trésor.
trésor au pays des Incas. C'est un peu les aventuriers de l'Arche perdue. Hein.
Oui, c'est un ancêtre effectivement du film de Spielberg. C'est vrai que Fritz Lang, même si sa formation, probablement comme tout le monde, il en a parlé un peu, il a lu Schopenhauer ou Nietzsche, mais en fait, la passion de Lang, c'était d'une part les grands romans d'aventure, Jules Verne, Alexandre Dumas, mais aussi Karl May, qui était un auteur très populaire de western, mais un auteur allemand. Ça, c'était sa grande passion. Et puis, d'autre part, le cinéma populaire que j'ai cité, c'est-à-dire Feuillade et autres, c'était pas du tout et d'autre part, ce qui le passionnait aussi, c'était les faits divers, la lecture des journaux. Donc, c'était pas du tout un intellectuel, mais la plupart des grands cinéastes de son temps, de l'époque, ils étaient comme lui. C'est-à-dire que pour eux, le cinéma avait une vocation universelle. C'est pas du tout un cinéma pour Chapelle.
Cela dit, c'est quand même, il y a des messages, hein, dans les films de Fritz Lang, que ce soit des films d'aventure, fantastiques, policiers ou de science-fiction, et notamment dans deux des plus célèbres des films de sa période allemande, encore muet cela, hein, je pense à Docteur Mabuse, hein, qui est l'histoire d'un personnage maléfique qui contrôle une ville par l'hypnose, la télépathie, ou alors encore Métropolis aussi, qui met en scène une ville assez terrifiante.
Oui, c'est-à-dire que Lang, je crois, n'était pas un homme engagé politiquement à cette époque, en tout cas dans les années 20, mais c'est un homme qui avait une grande préscience de ce qui allait se passer. Je dis que c'est le premier cinéaste moderne, parce que les cinéastes que vous avez cités, qui sont les fondateurs du cinéma, les Griffith, les Stroheim, les Cecil B. DeMille, tous les autres, c'était encore des gens du 19e siècle par leur mentalité, par leur préoccupation. Chaplin, par exemple, c'était Dickens, c'était le sentimentalisme, etc. Tandis que Lang, c'est un homme qui a observé le monde moderne, c'est-à-dire la science, la technologie, les médias, la manipulation. Mabuse, c'est la manipulation par les médias, la façon de conditionner l'opinion publique. Et d'une certaine façon, quand on pense que le nazisme est en train de naître et de se développer en Allemagne, il a pressenti, pas par un engagement politique, mais simplement par la lucidité d'une de sa grande intelligence.
Et cela à une époque dans les années 20 où le cinéma allemand est à son apogée, et à l'époque de l'apogée aussi d'une école à laquelle on a voulu rattacher Lang, l'expressionnisme. Écoutez ce qu'il en disait 40 ans plus tard, en 1965.
Il me semble, monsieur Fritz Lang, que l'expressionnisme a été un phénomène plutôt social qu'esthétique. Est-ce votre avis ?
Pour vous dire la vérité, moi, disons-nous, mon bon ami Bertolt Brecht, nous n'avons jamais appris qu'est-ce que veut dire vraiment l'expressionnisme. Je suis d'accord avec vous, je crois que c'est un phénomène social. Après la Première Guerre mondiale, on a essayé de faire des choses sociales. On a peut-être, je ne suis pas sûr, pas pensé à l'esthétique. Alors, moi, j'ai fait plusieurs films. Il y a quelques films desquels je peux parler, disons M. le Maudit, qu'on voit presque tous les années dans des grandes villes en Amérique, en Angleterre, ici aussi. Peut-être parce que quelques films ont l'air de documentaires.
Un extrait de M. le Maudit, le plus célèbre film de Fritz Lang, son premier film parlant, Michel Simon, et dans lequel on retrouve des thèmes que l'on retrouvait déjà dans ses films muets, qu'on retrouvera dans ses films parlants, c'est-à-dire l'angoisse aussi, hein, qu'on entend dans cet extrait, de cette femme qui a perdu sa petite fille, enlevée par ce personnage joué par Peter Lorre, qui est tout seul et qui va être jugé, arrêté, obsédé, il a tué la petite fille, sans doute la Elsie, et qui est arrêté par une espèce de tribunal populaire assez terrifiant.
Oui, c'est vrai, mais quand on écoutait Fritz Lang à parler de l'expressionnisme, bon, c'est vrai qu'il n'était pas expressionniste, mais il appartient tout de même à une grande tradition qui remonte au romantisme, même si ce n'est pas du tout un romantique lui-même, qui est germanique, c'est-à-dire c'est d'abord l'idée du double. C'est-à-dire l'être humain est double. Il y a en nous une part rationnelle qui essaye d'analyser, etc. Et puis il y a une part pulsionnelle. Et parfois cette part pulsionnelle prend le pas sur la part rationnelle. Et donc cette dualité de l'homme qu'on retrouve dans le grand dans le romantisme allemand, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la tradition nordique en général, ou chez Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est pas du tout méditerranéenne, qui est une tradition beaucoup plus rationnelle et de sérénité, d'équilibre. Je crois que l'angle de ce point de vue-là est vraiment dans une tradition allemande, et M. Le Maudit, évidemment, synthétise tous les thèmes de Fritz Lang, en particulier l'idée du destin, l'idée de la pulsion. C'est pas pour rien que la psychanalyse est née à Vienne, la ville de Fritz Lang, avec Freud, parce qu'il y a justement dans la psychanalyse le fait que l'homme est justement double, qu'il y a le ça, qu'il y a le moi, il y a le surmoi. Tout cela est très important chez Lang, qui était là aussi quelqu'un qui était psychanalyste, non pas sans le savoir, mais qui ne faisait pas de la théorie, oui, mais qui, par l'intuition géniale, a trouvé des choses que Freud avait développées dans ses écrits théoriques.
Oui, mais il y a la pulsion, justement, incarnée par Peter Lorre, ce personnage qui arrête...
Il y a la pulsion des masses aussi.
Et les masses, hein. C'est ça que je voulais en venir, Michel Simon, parce qu'on voit bien, on est en 1930, et on sent bien à la fois qu'il définit, d'une certaine manière, un régime de Weimar qui est incapable de faire régner l'ordre et la justice, et la montée du nazisme et des foules. Là, c'est vraiment un film qui annonce le nazisme.
Absolument. Dans M. Le Maudit, on voit comment la foule, cette foule qui va plébisciter Hitler, qui va se rallier à lui, une foule qui peut être dangereuse. Mais ça, c'est un thème qu'on trouve même chez des gens de gauche au XIXe siècle. La peur de la populace, c'est-à-dire que, et c'est d'où la nécessité des intermédiaires. Je pense que Lang a très bien compris l'idée de masse.
Mais c'est curieux, parce que ce film dont on dit qu'il pressent et qu'il dénonce à l'avance le nazisme, ça peut empêcher Lang, dit-on, d'avoir été sollicité par Hitler et Goebbels quand ils sont arrivés au pouvoir en 1933. Lang dit même qu'il aurait rencontré Goebbels, qu'il aurait fait des propositions pour devenir le plus grand cinéaste du régime.
Ça, c'est officiel. Ça, c'est un mythe absolu, parce que on a retrouvé les passeports de Fritz Lang après sa mort, qui ont été donnés à la Cinémathèque de Berlin. Il y a énormément de tampons qui prouvent que Lang a voyagé pendant 3 mois après la rencontre avec Goebbels, alors que d'après Lang, il s'est précipité vers la gare pour partir pour Paris. Il a mis quelques chemises dans une valise. Il avait passé à la banque prendre ce qui lui restait, alors qu'en fait, il a fait au moins 5 ou 6 voyages vers Bruxelles, vers Londres, vers Paris, avant de revenir à Berlin et finalement de partir de Berlin. Bon, et Goebbels, c'est vrai que les nazis étaient fascinés par l'œuvre de Lang, et en particulier par les Nibelungen, et ils ont fait interdire Mabuse, le deuxième Mabuse, le Mabuse parlant de 33. Néanmoins, ils auraient souhaité qu'il dirige probablement, c'est possible qu'ils auraient souhaité, mais en tout cas, cette rencontre historique n'a probablement pas eu lieu.
En tout cas, il part aux États-Unis en définitive, hein, où il tourne en 1936 le premier film de sa période américaine, Fury, où l'on retrouve d'ailleurs un peu les mêmes thèmes que dans M. Le Maudit, le héros victime de la justice populaire.
Quand vous êtes arrivé en Amérique, vous vous êtes, il me semble, très bien adapté au cinéma américain. Un film comme Fury, qui est merveilleux et typiquement américain. Comment avez-vous opéré ce transfert ?
Mon premier film parlant était M. Le Maudit. Et je crois de Le Maudit jusqu'au Fury, c'est seulement un pas. Parce que les deux films sont une critique sociale. Vous savez, Fury, c'est un film contre le lynching. Il fallait que j'étudie les mœurs et les gens, et encore une fois, les racines de la vie américaine. Quand mon collaborateur, Bartlett Cormack, et moi, nous avons écrit Fury, je voulais que le héros doit être un avocat. Parce que j'ai le pensé qu'il pourrait dire beaucoup de choses. Et on m'a dit, non, ne faites pas ça. Faites-le un simple homme du peuple pour que l'audience a la possibilité de s'identifier avec le héros.
Get fighting cameras! Yes! Fight him up against that door!
Stop! Please stop!
Jailer! Jailer! Can anybody hear me? Let me out! I'll talk to him! Let me out! Give me a chance!
C'est un extrait de Fury, le premier film américain de Fritz Lang, dans lequel le héros brusquement est pris à partie dans sa prison par la foule, hein, qui se déchaîne contre lui. Vous voulez dire quelque chose?
Oui,
sur ce que
c'est intéressant, c'est de voir comment un artiste 40 ans après parle de son film. C'est-à-dire qu'en fait, Fritz Lang met l'accent Il dit c'est un film sur le lynchage, mais il y a eu 10 films sur le lynchage aux États-Unis dans les années qui ont suivi. Mais le problème, c'est pas, ce qui est intéressant dans Fury, c'est pas, enfin, bien sûr, c'est un film qui dénonce le lynchage, mais c'est qu'il nous montre que le héros, qui est un homme très bien, un américain moyen, etc., qui a failli être assassiné par la foule, ensuite, il réussit à s'échapper de l'incendie, qui devait le brûler, et il se réfugie dans une cache, et il observe le déroulement d'un procès, où les gens qui ne l'ont pas tué, puisqu'il est vivant lui-même, vont être exécutés. Et il ne dit rien. C'est-à-dire qu'il accepte de se voir venger en laissant mourir des innocents. Ça, c'est la dualité de l'homme. Et ce qui est intéressant en film, justement, c'est que ce qui est anticonformiste, c'est pas de faire un film sur le lynchage, parce que tout le monde est contre le lynchage, mais c'est de montrer comment un homme bien peut devenir un criminel lui aussi. Ouais. C'était ça qui était
toujours la même chose en fait.
Hein, il n'en parle pas. C'est ça qui est formidable.
Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Il arrive aux États-Unis, il fait Fury, mais il a fait d'autres films, par exemple. Bon, il a fait des films anti-nazis, un des plus célèbres étant, je crois, sur l'exécution de Heydrich.
Avec Brecht. Les bourreaux meurent aussi.
Et puis alors, il fait aussi trois westerns, Michel Simon. C'est assez étonnant quand même dans le parcours de Fritz Lang. Bah,
et oui et non, parce que d'abord c'est l'examen de passage. On devient citoyen américain en faisant un western déjà, parce que c'est même le genre par excellence du cinéma américain, mais aussi quand il était gosse, je vous le disais, il aimait les récits de Carl May, les récits de La Frontière, etc. Et il trouvait ça passionnant, comme Fenimore Cooper aussi. Donc, d'une certaine façon, c'était son enfance. Il a passé ses premières années en Amérique à faire beaucoup de voyages dans les réserves indiennes, à étudier les Indiens, à prendre des photos. D'ailleurs, il y a une photo dans mon livre, un photogramme de lui, de la grande route américaine. Donc, c'est un homme qui était passionné par cela, et il a voulu passer de l'autre côté de la caméra et de devenir metteur en scène de ses westerns, qui sont d'ailleurs, il faut le reconnaître, à part L'Ange des Maudit avec Marlène Dietrich, qui ne sont pas ses meilleurs films, mais qui sont des films intéressants, de bons westerns classiques, mais pas de grands westerns.
L'Ange des Maudits, tourné en 1952, un film dont l'héroïne, donc chanteuse dans un repère de brigands, est une comédienne, elle aussi venue d'Allemagne dans les années 30, vous le disiez, Michel Simon, Marlène Dietrich.
A young man is reckless and ready. A young man is handsome and vain. He's young and intense, but hasn't the sense to come in out of the rain. Get away, get away, get away, young man, get away.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Fritz Lang.
Et Marlène Dietrich, que l'on entend dans Get Away Young Man, tiré du film de Fritz Lang, L'Ange des Maudits. Marlène Dietrich, qui n'était pas seulement une actrice de Fritz Lang, qui était un peu plus. Ses rapports avec les femmes, c'était un séducteur, hein, Michel Simon.
C'était un très très grand séducteur. Avec Marlène, ça s'est passé très bien lors de leur liaison en 37, par là. Et puis, beaucoup moins bien quand elle est devenue comédienne pour Fritz Lang, où elle regrettait toujours Sternberg, elle regrettait de ne pas être l'impératrice rouge ou blonde Vénus. Évidemment, c'est pas du tout le même genre de rôle et de personnalité.
Et qui disait, Marlène Dietrich, que Fritz Lang était le réalisateur qu'elle avait le plus détesté. En tout cas, il ne séduisait pas forcément tout le monde, surtout dans les tournages, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, Fritz Lang avait une réputation de tyran durant sa période allemande. Déjà, le compositeur Kurt Weill, qui travaillait avec lui, disait « Lang vous donne envie de vomir ». Alors, Lang va parfois faire prendre des risques à ses collaborateurs. Par exemple, Fritz Arno Wagner, un des grands chefs opérateurs du cinéma allemand, raconte comment il risqua sa vie sur le tournage du Testament du docteur Mabuse. « J'étais assis à côté de Fritz Lang, dit-il, sur un praticable à 10 mètres de hauteur pour filmer une usine de produits chimiques qui explose. Ce n'est qu'à l'instant où Lang appuya sur le bouton, suivi d'une explosion incroyable, envoyant tout dans l'espace à une hauteur de 70 mètres, que je compris le danger que nous courions tous. » En 1933, sur le tournage de Lilium, au studio de Joinville, près de Paris, Lang impressionne aussi beaucoup les techniciens français. C'était un homme fort, à la parole autoritaire, au visage crispé par le monocle, se souvient Bernard Zimmer. Vêtu d'une combinaison de mécanicien cossu, chaussé de dinguerie, l'œil à tout, pointilleux et même légèrement maniaque, Lang négligeait les remarques qu'on pouvait hasarder et encore plus les conseils qu'on avait l'audace de murmurer. En une réputation qu'il emporte avec lui aux États-Unis, Joseph Mankiewicz raconte que lorsqu'en 1934, il propose le nom de Lang pour la réalisation de Fury, le producteur répondit
aucune équipe ne voudra travailler avec ce fils de pute teuton. Alors, il va pourtant finir par accepter, mais, rapporte Mankiewicz, Lang eut beaucoup de problèmes pendant le tournage. Il n'avait pas encore appris que les équipes américaines ne sont pas là pour recevoir des ordres, comme les soldats. Il hurlait ses directives comme un Kaiser. Pour lui, le metteur en scène avait le droit de vie ou de mort. Par exemple, à midi, poursuit Mankiewicz, l'équipe s'attendait à déjeuner car elle travaillait depuis 7 heures du matin. Mais non, elle devait continuer, tout en regardant Lang se faire servir un verre de cognac sur un plateau d'argent. Un jour, ils se sont plaints auprès de Spencer Tracy, donc le comédien principal de Fury, qui dit à Lang « Pouvons-nous aller manger ?» Et Lang lui a répondu « C'est moi et personne d'autre qui décidera cela. » Avec l'accent allemand, j'imagine. Alors Tracy le regarda en face, très gentiment, passa sa main sur son visage plein de maquillage, cria « lunch » et quitta le plateau. Alors, mais d'autres comédiens, en revanche, adorent jouer sous sa direction. Edward G. Robinson, par exemple, qui dit « C'est un amoureux de la perfection, tatillon, méprisant la médiocrité et souvent tyrannique avec ceux qui ne trouvaient pas à son niveau ». Ou encore Joan Bennett, hein, l'héroïne de La femme au portrait ou de Scarlet Street. « Ma confiance en lui était absolue et aveugle, dit-elle. Il n'y avait ni discussion, ni analyse du personnage. Fritz disait à ses comédiens ce qu'il voulait. Point final, c'était un fanatique du réalisme. »
Un commentaire là, sur la tyrannie de Fritz Lang, Michel Simon,
oui,
vous dites vous-même dans votre livre.
C'était un être double. Lui aussi. Il trouvait la dualité chez les gens, il l'avait en lui-même. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un homme qui pouvait être le charme personnifié, et des gens qui l'adoraient, et puis dans d'autres circonstances, il pouvait être terrible, surtout avec l'amateurisme, quoi, qui ne supportait pas la non-préparation de l'amateurisme. Mais en même temps, je pense aussi qu'un créateur, il est tous ses personnages, et que cet homme, ce génie n'aurait jamais pu comprendre ce que c'était que l'autoritarisme, la volonté de puissance, le désir de contrôle, si lui-même ne l'avait pas exercé, s'il ne le ressentait pas en lui-même.
En tout cas, mal vu, sûrement à cause de ça, en Amérique, où il a tourné pendant 23 ans, où il s'en va peu de temps après le tournage d'un film curieux, qui n'a plus rien à voir avec ses anciens films, Les Contrebandiers de Moonfleet, qui se situe en Angleterre au 18e. Et puis surtout, il revient donc en Allemagne, en 56, pour tourner un diptyque ayant pour cadre l'Inde, le Tigre du Bengale et le Tombeau hindou. C'est quand même curieux dans le parcours de Lang et dans sa filmographie.
Alors, en 1920, il était déjà... il travaillait avec Thea von Arbuck, elle est devenue sa maîtresse, puis sa deuxième femme. Et elle avait écrit un scénario sur la demande de Joe May, un producteur-réalisateur. Et Lang espérait le tourner. C'était les deux tombeaux, le tombeau hindou et le tigre du Bengale. Et c'était filmé par Joe May en 1920. Et il en était ulcéré. Et je crois que quand 40 ans plus tard, tout est en boucle chez Fritz Lang. Il y a une sorte de rigueur, de symétrie. 40 ans plus tard, on lui propose de retourner en Allemagne pour tourner en Inde ces deux films, et il va le faire. Donc c'est encore une fois un rêve d'enfance et un peu la fin d'un cycle.
Alors plus curieux encore, il arrête de tourner en 1960, l'année de son dernier film, qui était Le Dernier Mabuse, et puis alors on le retrouve présent comme comédien, hein, non plus derrière mais devant la caméra, dans Le Mépris de Jean-Luc Godard.
J'ai demandé à Fritz Lang de jouer son propre rôle. En fait, ça n'était pas exactement son propre rôle. Je lui ai demandé que les gens le prennent, en quelque sorte, pour le porte-parole du cinéma. Il représentait aussi bien Griffith que Eisenstein, que Cocteau, tout le cinéma. Et il ne parlait pas en son nom propre. Et sur lui, il ne joue pas son propre personnage. Ce n'était pas du cinéma vérité. Ceci dit, c'est lui qui a fait son dialogue. Je lui disais, il se passe telle et telle situation. Comment voulez-vous réagir à telle situation? Et suivant comment il réagissait, moi j'adaptais ensuite la situation.
J'avais le spaghetti.
Furchtlos bleibt aber, so muss der Mann, einsam vor Gott. Es schützt die Einfalt ihn, keiner Waffen braucht und keiner List. Solange bis Gott es fehlt.
Mais l'homme, quand il le faut, peut demeurer sans peur seul devant Dieu. Sa candeur le protège et il n'a besoin ni d'armes ni de ruses jusqu'à l'heure où l'absence de Dieu vient à son aide.
Très bien.
C'est de Rendalin, n'est-ce pas, Mr. Lang?
Oui, la vocation du poète. Vous voyez la rédaction du dernier vers, quand a dit les deux autres.
Étonnant cette présence de Fritz Lang dans Le Mépris de Godard. Vous dites, Michel Simon, qu'il représente au fond la nostalgie d'un cinéma classique disparu.
Oui, c'est-à-dire que Godard était critique, un grand critique et un amoureux fou du cinéma classique américain, dont Fritz Lang était l'incarnation. Et Godard, en fait, a tourné le dos à ce cinéma. Ce qui est normal, d'ailleurs, Picasso pouvait aussi admirer Velázquez et ne pas vouloir répéter. Donc, Godard a ouvert le cinéma moderne avec d'autres. Et je crois que c'est un hommage extrêmement bouleversant et très touchant. Parce que pour les gens de la nouvelle vague, Fritz Lang incarnait la mise en scène. C'est-à-dire que Rossellini, c'était le contact avec le réel. Renoir, c'était la liberté dans la direction d'acteur. Enfin, ils y admiraient tous ces grands noms pour des raisons différentes. Mais Lang, c'était la mise en scène au sens de maîtrise, d'espace organisé. Une façon presque abstraite d'arriver à la perfection. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a choisi, il le dit lui-même, Godard, comme incarnation du metteur en scène.
Parce qu'en même temps, et vous le dites, Lang a vraiment inspiré tout le cinéma qui est venu après lui. Il apparaît au fond au tout début du cinéma, en tout cas du cinéma comme art, Michel Simon, et puis énormément de gens se sont inspirés de lui, Hitchcock pour commencer. Il a vraiment une paternité considérable dans le cinéma.
Oui, énorme, c'est sûr. D'abord, dès le départ, Eisenstein a remonté Mabuse pour la version soviétique, il a été impressionné. Buñuel a dit qu'il a découvert le cinéma, il a voulu devenir metteur en scène en voyant Les Trois Lumières de Fritz Lang. Hitchcock a entièrement adapté son système du montage parallèle, du suspense, à partir des premiers films de Lang, et ça va jusqu'à la Nouvelle Vague, et aussi même avant la Nouvelle Vague, tous les auteurs de films criminels américains noirs, en 1940, quand Fritz Lang lui-même commençait à les pratiquer en Amérique, ils avaient tous vu Le Maudit, et Le Maudit les avait inspirés. Même, je pense que Scarface a utilisé l'idée du thème que l'on siffle, qu'il avait vu, que Hawks avait vu dans Le Maudit 6 mois avant.
Et aujourd'hui, 26 ans après sa mort, Michel Simon, la place de Fritz Lang, est-ce que c'est toujours un auteur d'avant-garde, en quelque sorte?
Oui, je crois qu'elle est considérable parce que, comme je le disais, c'est un homme qui a compris l'importance de l'image et de la réflexion sur l'image. Et aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur ce que l'image veut dire. Et donc, Fritz Lang, c'est la lucidité par rapport à l'image.
Merci, Michel Simon. Je rappelle donc que vous venez de publier dans la collection Découverte Gallimard une petite biographie de Fritz Lang, passionnante. Fritz Lang, Le meurtre et la loi. Vous êtes également l'auteur de Petite planète cinématographique, 50 réalisateurs, 40 ans de cinéma, 30 pays, un recueil d'interviews de cinéastes du monde entier des années 60 à nos jours et qui vient d'être publié chez Stock. Vous avez pu entendre des extraits des films de Fritz Lang, Fury avec Spencer Tracy et M. Le Maudit avec Peter Lorre. Je signale que les plus grands succès de Fritz Lang, bien sûr, il faut les revoir. Ils sont disponibles en DVD et en vidéo. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Thomas et Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacant et Claire Tessert, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, jour du réveillon de Noël, un 2000 ans d'histoire de circonstances, le foie gras.